cours de philosophie du vivant par le père Philippe à Saint-Jodard le 11 avril 1991.
Je réponds d'abord à quelques questions. Je n'arrive pas à saisir cet appétit naturel de l'intelligence. Ce qui est au-delà des déterminations. N'essayez pas d'en avoir l'expérience. C'est au-delà de l'expérience. Toujours l'appétit naturel est quelque chose que nous posons dans une perspective de réflexion critique. Mais saisir ce qu'il y a de radical dans l'intelligence et voir son appétit naturel vers la vérité, je ne l'ai pas l'expérience. J'ai l'expérience de quoi? J'ai l'expérience que je ne suis pas un imbécile. C'est toujours quelque chose. J'ai l'expérience que j'aime, comme dit Aristote au début de la métaphysique, j'aime voir un beau coucher de soleil. J'aime connaître et regarder un paysage. Ce qui montre que j'aime connaître pour connaître. L'intelligence a sa propre finalité dans sa connaissance. Voilà l'appétit naturel de la vérité. Et cet appétit naturel de la vérité me montre que je ne peux pas m'arrêter à telle ou telle détermination. Autre expérience, le jugement. Le jugement. Ceci est. Voici l'agneau de Dieu. Quand on est témoin, ceci est montre que mon intelligence ne peut pas s'arrêter au domaine des déterminations. Elle pose, avant toute détermination, l'existence d'une chose. L'existence d'une chose est au-delà de toutes les déterminations. De là, je dis que l'intelligence a un appétit naturel. Vous voyez, je l'infère, c'est une inférence, je n'ai pas d'expérience. Je pourrais regarder ça pour toute la vie d'intelligence, mais je m'en critique. Question plus grave. Pourquoi saint Thomas appelle-t-il l'âme une substance intellectuelle? Qu'est-ce qu'une substance intellectuelle? Saint Thomas appelle l'âme une substance intellectuelle parce qu'elle est une substance intellectuelle. Et comment est-elle une substance intellectuelle? C'est parce que l'âme est substance du corps, substance de l'homme, principe radical de vie et d'être, et que cette âme et naturellement ordonné à une connaissance, à la vérité. Je n'ai pas non plus l'expérience qu'elle est une substance intellectuelle. Je n'ai jamais l'expérience de la substance. Vous avez l'expérience d'une source de vie, de détermination, mais vous n'avez pas l'expérience que l'âme est une substance. Donc vous n'avez pas l'expérience qu'elle est une substance intellectuelle. Mais vous pouvez inférer qu'elle est substance. Et vous pouvez inférer que parmi les opérations de l'âme, il y a une opération purement spirituelle, qui est l'intelligence, qui est la pensée. Donc, l'âme est source de la pensée. Si elle est source de la pensée, radicale de la pensée, elle est substance intellectuelle. Oui, substance intellectuelle ne veut pas dire que l'âme subsiste par elle-même indépendamment du corps. Ça veut dire que l'âme, dans toutes ses activités, et les activités qui finalisent l'âme, l'âme dépasse les connaissances sensibles, les connaissances imaginatives. Je suis capable de penser. Je crois que tous nous pouvons avoir cette expérience. On est capable de cogiter, de penser. J'ai l'expérience que j'affirme ceci est. J'ai l'expérience de dire le bien et ce qui m'attire. J'ai l'expérience que l'ami est choisi. Tout ça, c'est des expériences de l'aspect intellectuel, pas rationnel, mais intellectuel. L'âme a comme finalité la recherche de la vérité. Donc vous voyez, il ne faut pas se méprendre sur le terme substance intellectuelle. Ce n'est pas substance pensante. Vous voyez toute la différence qui existe entre les deux. Descartes divise les substances en substances pensantes et substances quantitatives, quantifiées, corporelles. Ça, c'est Descartes. Et ce n'est pas du tout saint Thomas. Saint Thomas n'a jamais dit substance pensante. Quelle différence y a-t-il entre les deux? C'est intéressant de se poser la question, point de vue de la signification. Substance intellectuelle, ça veut dire une substance capable de poser un acte spirituel. Substance pensante, c'est définir la substance par la pensée. Ça ne définit pas l'âme par la pensée. Parce que le petit déjeuner du matin fait partie de vos activités vitales. Ça, vous ne mettez pas ça en doute. Vous pouvez dire que l'âme est substance au niveau de la vie végétative. C'est très vrai. Elle est substance du corps. Elle est une substance capable de connaître de façon sensible et de façon imaginative. Et elle est capable de penser. Substance intellectuelle. De fait, saint Thomas n'emploiera plus ce terme dans la Somme, ou très peu, s'il l'emploie. Parce que ça risque d'être équivoque. Mais si je le prends très précis, avec beaucoup de précision, intellectuel est une qualité de substance. Ça qualifie la substance en lui montrant qu'elle est capable d'atteindre une pensée. Au dernier cours, vous avez dit que le rôle de l'intellect agent dans l'induction relevait d'une causalité formelle, dans la causalité efficiente. Pourriez-vous expliquer cette énigme? Eh oui, l'énigme est très facile à comprendre. Quel est le propre d'une causalité vitale? Le propre de la causalité vitale, c'est d'être une causalité efficiente, assumant la causalité formelle. Puisqu'elle est immanente. L'immanence provient de la forme. Et l'opération provient de la cause efficiente. Donc c'est une efficiente dans une causalité formelle. C'est ce qui caractérise la causalité vitale. La vie est un degré supérieur au monde physique. Et donc, ce qui dans le monde physique est séparé dans le monde vital peut être uni. Comme toujours, plus on s'élève, plus l'union des parties diverses du monde physique s'unissent. Et il est évident que la causalité, l'intellect agent, dans l'induction, joue un rôle très particulier. Parce qu'il s'agit de passer de l'expérience à la cause, au principe. Or, le principe est non seulement au-delà du sensible, au point de vue existentiel, mais il est aussi source de toutes les déterminations. Donc, il est au-delà des déterminations que je saisis dans l'expérience. Et il est source de toutes ces déterminations. premier dans l'ordre de ses déterminations. Et il saisit ça à l'intérieur de la causalité efficiente. Vous avez quelque chose d'analogue pour comprendre le rôle de l'intellect agent. Quand il s'agit de la démonstration a posteriori de l'existence de l'être premier. On verra ça demain au cours. Quand vous voyez les voies d'accès vis-à-vis de Dieu, je le prends très rapidement maintenant, vous partez de l'expérience sensible. Il existe. Je constate qu'il existe des réalités mues. Il y a des réalités mues. Ces réalités mues existent. Et je passe grâce au principe de finalité qui éclaire cette constatation, ce fait. Je passe à l'affirmation, il est nécessaire. Il existe un être au-delà du mouvement, au-delà du devenir, au-delà de ce qui est vu. Être premier. Voyez, je passe donc de telle modalité à une modalité totalement différente. Ceci est contingent. Ceci est nécessaire. Je passe donc du contingent au nécessaire. Le nécessaire n'est pas contenu dans le contingent. Ça, c'est la grosse objection de Kant. Le nécessaire n'est pas contenu dans le contingent. Donc je ne peux jamais découvrir le nécessaire à l'égard du contingent. Alors qu'est-ce que vous dites de ça? Ah, vous dites attention, c'est pas le contingent que je regarde, c'est l'exister de réalité mue. Ça c'est la scolastique qui dit contingent, c'est Suarez. C'est l'exister. Donc, l'être en acte, dans les réalités mues, c'est pas la même chose. Et je regarde l'être nécessaire, donc il y a un lien entre les deux. Je passe de telle modalité à telle autre modalité, et il y a quelque chose de commun. Et le quelque chose de commun, c'est l'être en acte. Et c'est cet être en acte que l'intellect agent met en pleine lumière. Toujours. Vous voyez, l'intellect agent, il est pour illuminer l'être en acte. On a vu ça depuis le jugement d'existence. Vous le voyez dans l'induction. Vous le voyez dans la démonstration. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est... On pose l'intellect agent, vous voyez, j'ai pas d'expérience de l'intellect agent, mais j'ai l'expérience de cet appétit naturel de l'intelligence. Vous voyez, expérience, tiens, je le pose, qu'il y a cette continuité dans ma vie intellectuelle. Il y a une diversité et c'est toujours mon intelligence. J'appréhende, je juge, je raisonne. Il y a une exigence fondamentale de ma vie intellectuelle, c'est de découvrir, c'est que l'intelligence est faite pour ce qui est. Ce que saint Thomas exprimera, primo caditi intellectus es, la première chose que l'intelligence saisit, c'est ce qui est. Eh bien ça exige de poser l'intellect agent. Donc voyez, l'aspect énigmatique, qu'Kant ne dépasse pas, et devant lequel il se trouve devant une antinomie absolue. C'est très vrai, je ne peux pas découvrir le nécessaire dans le contingent. Je suis entièrement d'accord là-dessus. Mais je peux, à partir de l'exister du contingent, de ce qui est mu, poser l'exister d'un être nécessaire. Parce que ce qui est mu, l'exister de ce qui est mu, dépend d'un autre. Et cet autre, c'est un être nécessaire. Pour ça, l'intellect agent nécessairement est là. C'est la vitalité de l'intelligence. L'intellect agent, c'est la vitalité de l'intelligence. C'est que l'intelligence est une puissance vitale. Parce qu'elle est une puissance vitale, elle est en acte. Elle se meut. C'est le se movere de l'intellect agent, de l'intelligence qu'il faut bien saisir. C'est ce se movere que Hegel mais en pleine lumière, mais tellement en pleine lumière qu'il n'y a plus que le se movere. Et l'aspect objectif de l'intelligence disparaît. Ce qu'il y a d'extraordinaire chez Aristote, c'est qu'il a compris que le se movere de l'intelligence pouvait respecter l'objectivité de la réalité qu'on connaît. Ça, c'est très unique dans l'histoire de la pensée. Il n'y a qu'Aristote qui a posé l'intellect agent. Et il l'a posé parce qu'il a compris ce que c'était que l'être en acte. Voyez, si j'essaie de comprendre la priorité de l'être en acte par rapport à l'être en puissance, si je découvre qu'il y a en moi une faculté de puissance, de connaître et de penser. Et que cette pensée, c'est ma pensée. Ça, je peux le dire. Il faut donc que la puissance qui est au point de départ de cette pensée soit une puissance spirituelle qui est capable de se mouvoir. Or, je constate que l'intelligence dans un état de réceptivité à l'égard du réel. Fondamentalement, il faut donc que je pose, en même temps que cette réceptivité, quelque chose qui explique que c'est mauvais. Oui. Donc, c'est la métaphysique de l'être en acte et de l'être en puissance, appliquée à la vie intellectuelle. Alors, je le constate, mais ça ne prend toute sa force que grâce à la métaphysique de l'être en acte et l'être en puissance. Vous voyez ça? Donc, il faut être très attentif au se movere. Et toute la dialectique hegelienne met en pleine lumière ce se movere, mais le met mal en lumière, puisque ne distingue plus le point de vue de la spécification et le point de vue de l'exercice. Et on retrouvera le même blocage dans toute la philosophie de la phénoménologie. Alors ce qu'il faut, c'est que nous reprenions conscience de la distinction très nette entre la cause efficiente et la cause formelle. Mais que nous comprenions que lorsqu'il s'agit d'une réalité vitale, toute causalité efficiente, vitale, implique une causalité spécificatrice, formelle. Alors, y a-t-il encore des questions là-dessus? Oui.
Est-ce que vous pouvez préciser un petit peu pourquoi c'est l'application de la métaphysique de l'acte et de l'être en acte en puissance qui permet de l'éclairer?
Oui, parce que la primauté de l'acte sur la puissance. Vous êtes bien d'accord? Vous êtes bien d'accord que quand il s'agit du vivant, il se meut. C'est le propre du vivant. Il n'y a que l'être non vivant dans lequel se trouve parfaitement distingué l'action et la passion. passif en étant vivant. Il peut être vivant et dans cette vie être passif. Il faut faire des actes d'amour, des actes de foi, des actes d'espérance. On se meut. Et alors ça, c'est le propre du vivant. C'est que chez lui, il se meut. Donc, le vivant suprême, c'est le vivant de vie spirituelle, dans lequel le s'émeuverai est encore beaucoup plus fort que dans tous les autres degrés de la vie. Le s'émeuverai d'intelligence, c'est le s'émeuverai suprême que je peux expérimenter. Or, je m'aperçois que l'intelligence est premièrement réceptive. Elle ne peut être réceptive et se mouvoir que s'il y a dans l'intelligence même une capacité de se mouvoir. Et cette capacité de se mouvoir, je dis l'intellect agent. Oui.
Est-ce que ça peut nous faire comprendre dans l'aspect vital de l'inspiration?
Point de vue philosophie de l'art.
La philosophie de l'art au niveau de la causalité efficiente qui peut être assumée même au niveau chrétien. Mais la spécification
qui pose quand même. C'est pour ça que je disais tout le temps que la découverte de Kant au niveau de la subjectivité transcendantale, vous voyez, c'est exprimé comme ça, est vrai dans l'ordre artistique. Dans l'activité artistique, dans l'inspiration, il y a une subjectivité transcendantale. Puisque l'artiste donne à lui-même sa propre détermination. Tandis que l'intellect agent est présent dans l'inspiration, c'est évident. C'est peut-être même le premier lieu où on doit le saisir. Pour nous, quoi de nos ? Expliquer l'inspiration sans l'intellect agent. Vous serez paumé complètement. Tandis que dans l'inspiration, vous voyez bien que le propre de l'artiste, c'est de découvrir quelque chose de nouveau. Il se meut dans l'inspiration. Alors, où ça prend toute son acuité, c'est dans la connaissance spéculative, donc en métaphysique, où il est à la fois passif et actif pour l'être. Et c'est pour ça que l'intellect agent a un rôle tout à fait particulier pour le jugement d'existence, au point de départ, pour l'induction, pour la découverte de l'être premier. Parce que dès que l'intelligence touche l'être, elle ne peut le toucher que grâce à l'intellect agent. Sans l'intellect agent, elle reste au niveau putatif. Puisque l'intelligence ne se meut pleinement que lorsqu'elle atteint ce qui est. C'est à ce moment-là où elle est souverainement passive et souverainement active. Puisqu'elle atteint ce pourquoi elle est faite. Alors vous voyez un peu mieux, j'espère. Mais c'est très difficile, il faut y revenir. De nombreuses fois, c'est bien de tout de suite voir cela. Mais il faut comprendre que ça met du temps à comprendre ce que c'est que l'intellect agent et le pourquoi de cette position de l'intellect agent. On voit très bien que pour saint Thomas, c'est une pièce maîtresse. Mais poser l'existence de Dieu dans l'ordre de l'être, poser l'intellect agent dans l'ordre de la pensée, c'est analogue. C'est pour ça, supprimer l'intellect agent, supprimer l'existence de l'être premier, des deux côtés, on tombe dans la
La causalité formelle qu'assume la causalité efficiente, c'est
Oui, forcément. Et ça se voit parfaitement dans l'aspiration. La causalité formelle est entièrement assumée. Oui. Parce que chez le poète, chez l'artiste, il se donne à lui-même son idéal. Il n'appuie pas dans la réalité. Elle vient de lui. Et de la vitalité de son intelligence. De la vitalité poétique de son intelligence. Oui. Ça explique aussi, voyez, alors là, ce serait très intéressant à étudier, pourquoi Maritain a cette tentation permanente de considérer que l'intuition poétique est supérieure à la connaissance métaphysique. Il le dit, hein. L'intuition poétique. Pourquoi est-elle plus parfaite pour lui que la connaissance métaphysique? Dans l'intuition, dans la connaissance poétique, donc dans la connaissance de l'inspiration poétique, le s'émoveré, je crois, atteint son sommet et grâce à ça, donne à l'intelligence humaine sa détermination. Donc si je me place du côté de la vie, tu sais, me verrais, c'est dans l'intellect, c'est dans l'expérience poétique, c'est dans l'intellect poétique que j'ai l'expérience la plus parfaite. Oui. Ce serait la même chose pour toute connaissance dialectique. Là, on pourrait dire que Maritain rejoint Hegel. Parce qu'il considère que cette connaissance poétique est supérieure à toutes les autres. Du côté du s'émoveré, c'est très juste. Et du côté de l'aspect de la subjectivité transcendantale de l'intelligence, c'est très juste. Mais pas du côté de la connaissance comme telle. Puisque la connaissance est premièrement passive. Elle dépasse la vie. Je ne peux pas ramener la connaissance à la vie. Il y a dans la connaissance intellectuelle quelque chose qui est caractéristique de la connaissance intellectuelle et qui ne peut pas se ramener à la vie. Or, n'oubliez pas que dans le Péripsuchès, Aristote est au niveau de la vie. Tandis que, en métaphysique, il est au niveau de l'être. Alors, on va continuer. Nous avons donc vu les diverses opérations intellectuelles respiration.
Montrer tous les déraillements intellectuels
Byronien, vous ne regardez que les déraillements affectifs. Mais tout déraillement affectif dépend d'un déraillement intellectuel. Et donc vous n'allez pas assez loin. Vous êtes obligé de le reconnaître. Qui dit, mais comment reconnaître le déraillement intellectuel? Il faut d'abord analyser où il peut y avoir des déraillements. Donc, il y a un premier type d'abstraction, qui est l'abstraction au niveau de l'appréhension. C'est la première abstraction. On l'appelle l'abstraction universelle. Quand je passe de l'expérience de chat à animal, je passe d'abord de l'expérience de ce chat, ce petit minet, à chat. Et après, je passe encore plus à tous les chats. Puis je passe à quelque chose d'autre. Donc, abstraction universelle qui peut aboutir à l'universel. Puis il y a l'abstraction formelle. Je passe du blanc à la blancheur. Là, j'ai conscience de cette abstraction. Et cette abstraction formelle, c'est celle qui existe dans l'induction. Abstraction formelle au niveau des diverses causalités. Des diverses causalités des inductions. C'est là où on parlera de degré d'abstraction. C'est une mauvaise formule. Il faut savoir à où ça se situe. Il faut simplement dire la diversité des abstractions. Il n'y a pas de degré au sens absolu. Oui, on peut, à la rigueur, mais c'est pas, ça n'a aucun intérêt. Il faut mieux regarder la diversité des abstractions. Le mathématicien abstrait autrement que le philosophe. Si je veux comprendre parfaitement la connaissance mathématique, il faut que je regarde quelle est l'abstraction du mathématicien. Quelle est l'abstraction du philosophe? C'est pas cette première, elle est commune à tous les savants, à toute l'humanité. Celle-ci distingue.